Évangile selon Matthieu, chapitre 1er. La généalogie de Jésus-Christ, versets 1 à 17.
Lecture de la parole. Livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, et Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra Judas et ses frères, et Judas engendra Phares et Zara de Tamar. Et Phares engendra Esrom, et Esrom engendra Aram, et Aram engendra Aminadab, et Aminadab engendra Naasson, et Naasson engendra Salmon, et Salmon engendra Boaz de Rachab, et Boaz engendra Obed de Ruth, et Obed engendra Jessé, et Jessé engendra David le roi, et David le roi engendra Salomon, de celle qui avait été femme d'Uri, et Salomon engendra Roboam. Et Roboam engendra Abia, et Abia engendra Asa, et Asa engendra Josaphat, et Josaphat engendra Joram, et Joram engendra Ozias, et Ozias engendra Joatam, et Joatam engendra Akaz, et Akaz engendra Ézéchias, et Ézéchias engendra Manassé, et Manassé engendra Amon, et Amon engendra Josias, et Josias engendra Jéconias, et ses frères au temps de la transportation de Babylone. Et après la transportation de Babylone, Jéconias engendra Salathiel, et Salathiel engendra Zorobabel, et Zorobabel engendra Abiud, et Abiud engendra Éliakim, et Éliakim engendra Azor, et Azor engendra Sadoc, et Sadoc engendra Akim, et Akim engendra Éliud, et Éliud engendra Éléazar, et Éléazar engendra Matan, et Matan engendra Jacob, et Jacob engendra Joseph, le mari de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Toutes les générations, depuis Abraham jusqu'à David, sont donc 14 générations, et depuis David jusqu'à la transportation de Babylone, 14 générations, et depuis la transportation de Babylone jusqu'au Christ, 14 générations.
Lecture de l'étude. Le Seigneur Jésus est donc présenté en Matthieu comme l'objet des promesses et des prophéties faites au peuple de Jéhovah. On pense qu'il a été écrit en vue des croyants d'entre les Juifs, afin de fortifier leur foi en la personne de leur Messie que le peuple avait rejeté. De là viennent les nombreuses citations de l'Ancien Testament, surtout d'Ésaïe, qui a beaucoup parlé du Christ. La généalogie est, comme le premier verset l'indique, celle de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, l'héritier des promesses faites à Abraham et l'héritier du trône de David. Elle part d'Abraham et traverse trois séries de 14 générations chacune pour arriver à Joseph, le mari de Marie, mère de Jésus. C'est la généalogie officielle du Seigneur, seule valable pour les Juifs, parce qu'elle devait être la généalogie paternelle. Elle était donc celle de Joseph, qui était estimé parmi les Juifs être le père de Jésus. Luc 3, verset 23.
Et Jésus lui-même commençait d'avoir environ 30 ans, étant comme on l'estimait fils de Joseph.
Les trois séries de générations correspondent aux trois grandes phases de l'histoire d'Israël depuis l'appel d'Abraham. D'Abraham à David, verset 2 à 6, de David à la transportation de Babylone, verset 7 à 11, et de la transportation à la naissance de Christ, versets 12 à 16. Si la venue du Christ au milieu de son peuple répondait aux promesses faites dès longtemps, elle était toutefois en rapport avec la grâce de Dieu envers le peuple. Et le Seigneur naissant dans ce monde ne pouvait pas surgir d'une race d'hommes illustres dont l'histoire serait sans tache, puisqu'il descendait ici-bas comme sauveur d'une race perdue. Sa gloire ne provenait donc pas de ses pères selon la chair, mais bien de ce qu'il était en lui-même, venu du ciel pour apporter la grâce et la vérité. Ainsi, c'est sur le pied de la pure grâce qu'il est en rapport avec son peuple. Aussi voyons-nous dans cette généalogie glorieuse pour le Juif orgueilleux de descendre d'Abraham et de David, des noms qui nous rappellent de tristes choses. Car à côté d'hommes d'heureuses mémoires, tels qu'Abraham, David, Ézéchias, Josias, Nous voyons des rois impies tels que Joram, Akaz, Manassé. En outre, l'Esprit de Dieu a trouvé bon de mentionner des personnes faciles à omettre dans une généalogie officielle, si Dieu n'avait pas eu des raisons spéciales pour les citer. Ce sont quatre femmes au souvenir desquelles se rattachent des faits humiliants dans l'histoire des ancêtres. Tamar, verset 3, rappelle l'immoralité de Judas. Rahab, verset 5, une prostituée cananéenne, reçut les espions envoyés par Josué à Jéricho. Ruth, verset 5, n'a rien de déshonorant dans sa vie, sauf qu'elle était une Moabite, peuple dont l'Éternel avait dit qu'il n'entrerait jamais dans la congrégation d'Israël. Puis le nom de la mère de Salomon, verset 6, rappelle le grave péché de David qui avait fait mourir Uri à la guerre pour prendre sa femme. Mais si ces noms font honte au cœur naturel qui cherche des sujets de gloire dans l'homme, les péchés qu'ils rappellent font ressortir l'immense grâce de Dieu qui s'est occupé de tels êtres en leur donnant un sauveur. Nous ne pouvons entrer dans l'histoire de chacune de ces femmes. Nous y verrions l'activité de leur foi, car là où la grâce de Dieu opère, il y a aussi des œuvres qui en sont le fruit. Puis Dieu leur a accordé l'honneur de figurer dans la généalogie du Messie. Combien il est vrai que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, verset 20.
Or la loi est intervenue afin que la faute abondât, mais là où le péché abondait, la grâce a surabondé.
Naissance du Seigneur, versets 18 à 25.
Lecture de la parole. Or la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Sa mère, Marie, étant fiancée à Joseph, avant qu'ils fussent ensemble, se trouva enceinte par l'Esprit-Saint. Mais Joseph, son mari, étant juste et ne voulant pas faire d'elle un exemple, se proposa de la répudier secrètement. Et comme il méditait sur ces choses, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme, car ce qui a été conçu en elle est de l'Esprit-Saint, et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Or tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur a dit par le prophète disant, « Voici, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel, ce qui, interprété, est Dieu avec nous. » Or Joseph, étant réveillé de son sommeil, fit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné, et prit sa femme auprès de lui, et ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né, et il appela son nom Jésus. Lecture de l'étude.
Le récit de la naissance du Christ, très court dans notre évangile, est raconté de manière à établir par les Écritures que Jésus, méconnu et rejeté par son peuple, était bien le Messie promis. L'évangéliste montre que sa naissance eut lieu conformément à cette prophétie d'Ésaïe 7, verset 14. Voici, la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, et appellera son nom Emmanuel. Emmanuel veut dire « Dieu avec nous ». Un ange annonça à Joseph qu'il ne devait pas craindre de prendre la Vierge Marie pour sa femme, car elle mettrait au monde un fils qui, tout en étant bien le fils de Marie, serait d'origine divine ainsi que son nom l'indiquait. L'ange lui dit « Tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés ». Jésus signifie Jéhovah Sauveur. Ce nom nous dit que le Christ est bien l'Éternel, mais l'Éternel Sauveur, entrant dans ce monde par la naissance comme un homme, afin de sauver les pécheurs du milieu de son peuple et du monde entier. Personne du Seigneur Jésus est merveilleuse et insondable. Il est homme tout en étant Dieu. Il fallait qu'il en fût ainsi pour que nous eussions un Sauveur. Il fallait qu'il fût homme pour pouvoir mourir, mais il fallait qu'il fût Dieu afin de triompher de la mort, ressusciter et entrer dans la gloire, frayant ainsi aux croyants le chemin qui délivre du jugement et amène jusque dans la sainte présence de Dieu. Aussi, l'union de la divinité et de l'humanité de Christ est-elle un mystère insondable, que Dieu seul connaît, et qui fait le sujet de notre adoration et de nos louanges dès maintenant et pour l'éternité. La personne du Seigneur est si glorieuse qu'il dit lui-même « Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père », mais il dit aussi « Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler ». Matthieu 11, verset 27. Puissent ceux de nos lecteurs qui ne sont pas encore sauvés ne pas méconnaître plus longtemps un tel Sauveur, car comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ? Hébreux 2, verset 3.